c'est aussi témoigner autour de soi. Quelle identité? Bien, l'identité qui résulte de tout cela pour l'homme et pour la femme, c'est difficile à dire, parce que d'un côté, vous avez l'intention du Créateur, l'harmonie, et de l'autre côté, vous avez le péché. Alors, l'homme et la femme qui vient à Christ, le chrétien, vont définir son identité en étant confrontés, je crois, à beaucoup d'influences. On verra ça au cours des différents exposés que nous aurons à la suite. Mais je crois qu'il y a quatre influences qui jouent beaucoup et qui peuvent être positives ou négatives. Vous avez le modèle familial, d'abord, dans lequel on vit. Alors, négativement, l'apôtre Pierre nous dit, passage, il nous dit que, voilà, 1 Pierre 1,18, « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous a été enseignée par vos pères. » C'était le modèle, je dirais, marqué par le péché. Et on copie ou on rejette ce modèle. Il y a donc le modèle familial, il y a les fréquentations, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Il y a le passé, un passé qui peut être douloureux, fait de violence, notamment dans la petite enfance, et qui laisse des traces souvent très graves. Ou à l'inverse, on peut avoir une enfance heureuse, je crois que c'est le cas de la plupart, si ce n'est pas tous ici, qui influence notre, je dirais, notre perception de la vie. Et puis il y a la culture dans laquelle nous vivons. Pas seulement le modèle familial, pas seulement les fréquentations, pas seulement le passé, mais la culture. Nous baignons aujourd'hui dans un monde matérialiste, se tourner vers le moi, l'égoïsme, la satisfaction des plaisirs. Comment nous sommes influencés par ce modèle? Quelle attitude? Ça, c'est la réponse un peu à la question que je viens de poser. Bien, les modèles, on peut les imiter ou les rejeter, s'ils sont bons ou mauvais. Les fréquentations, elles peuvent être changées. Le passé, c'est peut-être plus difficile. Il peut être remis au Seigneur. Et la culture, je crois qu'on peut la relativiser. Et je vais prêcher pour ma paroisse, je m'en excuserai. Valeur de l'histoire, c'est de nous faire relativiser la culture dans laquelle nous vivons et nous faire apprécier ce que d'autres cultures ont de positif et nous mettre en garde contre ce qu'elles ont de négatif. L'enseignement du Nouveau Testament, les marques de la maturité féminine. Quels sont les principes de la féminité dans les Écritures? Alors j'ai pris un texte, il y en a beaucoup, vous comprenez. Premier texte, l'abandon, soumission. Alors je laisserai les frères définir le terme de soumission parce que c'est un mot qui fait frémir aujourd'hui. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, c'était le cas dans lequel vivaient les gens à l'époque où Pierre écrivait son épître, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre conduite pure et respectueuse. On reviendra sur ce terme de soumis, qui est un terme très fort, qui est un terme d'origine militaire, qui veut dire se placer sous l'autorité d'un gradé. Mais je dis quand même en passant que le Seigneur a connu cela. Et lorsque toutes les choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, une conception fausse à bannir, c'est probablement que la soumission, c'est quelque chose de difficile. Et puis, c'est peut-être aussi pour les hommes. Quand il est dit que la femme doit se soumettre, nous verrons que ce n'est pas une soumission autoritaire. On essaiera de définir plutôt ce que c'est qu'une soumission selon la parole. Et la parole nous dit, enfin le texte de Pierre nous dit, voyez, que le pouvoir féminin, c'est la conduite sans parole. Alors évidemment, c'est un cas particulier, je viens d'évoquer. L'attitude de pureté et l'attitude de respect. Ça, c'est le premier point qu'on relève, abandon, soumission. Le second point, j'ai mis la piété. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, ça c'est un texte de la Colombe, inaltérable d'un esprit doué et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, la féminité, c'est soit la poudre aux yeux, c'est-à-dire le paraître. Est-ce que la femme va trouver son identité dans le paraître? C'est-à-dire, ici, ce que dénonce l'apôtre, c'est pas de porter des bijoux, hein. Pas dire, faire dire à la parole ce qu'elle dit pas. Ce que dénonce l'apôtre, c'est le luxe excessif, qui, dans l'Église, valorisait les riches et choquait les pauvres. Donc, l'apôtre n'est pas contre la beauté féminine, je crois qu'au contraire. Si je me souviens bien, Pierre était marié. Ce qu'il veut, l'apôtre, c'est pas la poudre aux yeux, c'est la poudre du cœur, ou la poudre au cœur, comme vous voudrez. C'est-à-dire, eh bien, tout ce qui est ce trésor, qu'il évoque, la parure cachée du cœur. Et je crois qu'elle est à découvrir dans le mariage parce que c'est cette découverte mutuelle qu'on fait au cours des années qui est, selon, je crois, la parole de Dieu. Et puis la bonté, verset 5 du chapitre 3. « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham. » Elle appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus des descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, on voit que Pierre prend des exemples dans le passé. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Je termine par les marques de la maturité masculine. Éphésiens 5, là aussi je vais aller vite parce que c'est des textes qui sont bien connus. Éphésiens 5, « Marie, aimez votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. » Donc, vous avez on a un commandement, les maris, c'est que notre vraie masculinité, maturité masculine, se trouve dans le fait d'aimer l'épouse comme Christ a aimé l'Assemblée, c'est-à-dire un amour inconditionnel et constructif. Il nous est dit ensuite que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, donc une expression qui est très forte. Je passe au verset 28, « Aimer comme soi-même ». De même, les maris donc doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Je viens d'en dire un mot. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Là aussi, on a un commandement, parce que le mot « doivent » est un mot très fort qu'on retrouve très rarement dans le Nouveau Testament. Un commandement, donc, quand je crois qu'il porte sur le corps, c'est intéressant, quand on est malade, on cherche à soulager les parties malades du corps, à prendre soin d'elles. On ne va pas les traiter avec négligence. Et je ne veux pas dire que là, l'épouse est malade, mais c'est une comparaison qui permet de montrer le soin qu'on doit s'attacher à porter à son épouse. Et puis, il y a une image, c'est l'image de Christ et de l'Assemblée. Il n'est jamais demandé à l'homme d'être un leader. On ne voit pas ça dans la parole. Il lui est seulement demandé d'aimer. Je termine en disant qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, je crois, dans nos couples, c'est non seulement d'essayer de réaliser ça, mais c'est la pureté, qui est une des priorités essentielles, parce que je crois que c'est un des plus grands dangers de notre civilisation, où tout aujourd'hui est permis. Et c'est peut-être un des défis qui nous est lancé aujourd'hui. Je crois que les hommes et les femmes qui assument leur identité, avec quelques exemples que nous venons de voir dans la parole, sont ceux qui sont consacrés au Seigneur, et c'est ce qu'il attend de nous. C'est aussi témoigner autour de soi. Quelle identité ? Bien, l'identité qui résulte de tout cela pour l'homme et pour la femme, c'est difficile à dire, parce que d'un côté, vous avez l'intention du Créateur, l'harmonie, et d'autre côté, vous avez le péché. Alors, l'homme et la femme qui vient à Christ, le chrétien, vont définir son identité en étant confrontés, je crois, à beaucoup d'influences. On verra ça au cours des différents exposés que nous aurons à la suite. Mais je crois qu'il y a quatre influences qui jouent beaucoup et qui peuvent être positives ou négatives. Vous avez le modèle familial, d'abord, dans lequel on vit. Alors, négativement, l'apôtre Pierre nous dit, passage, il nous dit que, voilà, 1 Pierre 1:18, « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous a été enseignée par vos pères. » C'était le modèle, je dirais, marqué par le péché. Et on copie ou on rejette ce modèle. Il y a donc le modèle familial, il y a les fréquentations, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Il y a le passé, un passé qui peut être douloureux, fait de violence, notamment dans la petite enfance, et qui laisse des traces souvent très graves. Ou à l'inverse, on peut avoir une enfance heureuse, je crois que c'est le cas de la plupart, si ce n'est pas tous ici, qui influence notre notre perception de la vie. Et puis, il y a la culture dans laquelle nous vivons. Pas seulement le modèle familial, pas seulement les fréquentations, pas seulement le passé, mais la culture. Nous baignons aujourd'hui dans un monde matérialiste, se tourner vers le moi, l'égoïsme, la satisfaction des plaisirs. Comment nous sommes influencés par ce modèle ? Quelle attitude ? Ça, c'est la réponse un peu à la question que je viens de poser. Bien, les modèles, on peut les imiter ou les rejeter, s'ils sont bons ou mauvais. Les fréquentations, elles peuvent être changées. Le passé, c'est peut-être plus difficile. Il peut être remis au Seigneur. Et la culture, je crois qu'on peut la relativiser. Et je vais prêcher pour ma paroisse, je m'en excuserai. Valeur de l'histoire, c'est de nous faire relativiser la culture dans laquelle nous vivons et nous faire apprécier ce que d'autres cultures ont de positif et nous mettre en garde contre ce qu'elles ont de négatif. L'enseignement du Nouveau Testament. Les marques de la maturité féminine. Quels sont les principes de la féminité dans les Écritures? Alors j'ai pris un texte, il y en a beaucoup, vous comprenez. Premier texte, l'abandon, soumission. Alors je laisserai les frères définir le terme de soumission parce que c'est un mot qui fait frémir aujourd'hui. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, c'était le cas dans lequel vivaient les gens à l'époque où Pierre écrivait son épître, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre conduite pure et respectueuse. On reviendra sur ce terme de soumis, qui est un terme très fort, qui est un terme d'origine militaire, qui veut dire se placer sous l'autorité d'un gradé. Mais je dis quand même en passant que le Seigneur a connu cela. Et lorsque toutes les choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, une conception fausse à bannir, c'est probablement que la soumission, c'est quelque chose de difficile. Et puis, c'est peut-être aussi pour les hommes, quand il est dit que la femme doit se soumettre, nous verrons que ce n'est pas une soumission autoritaire. On essaiera de définir plutôt ce que c'est que une soumission selon la parole. Et la parole nous dit, enfin le texte de Pierre nous dit, voyez, que le pouvoir féminin, c'est la conduite sans parole. Alors évidemment, c'est un cas particulier, je viens d'évoquer, l'attitude de pureté et l'attitude de respect. Ça, c'est le premier point qu'on relève, abandon, soumission. Le second point, j'ai mis la piété. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, ça c'est un texte de la Colombe, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, la féminité, c'est soit la poudre aux yeux, c'est-à-dire le paraître. Est-ce que la femme va trouver son identité dans le paraître? C'est-à-dire, ici, ce que dénonce l'apôtre, c'est pas de porter des bijoux, hein. Pas dire, faire dire à la parole ce qu'elle dit pas. Ce que dénonce l'apôtre, c'est le luxe excessif, qui, dans l'Église, valorisait les riches et choquait les pauvres. Donc, l'apôtre n'est pas contre la beauté féminine, je crois qu'au contraire. Si je me souviens bien, Pierre était marié. Ce qu'il veut, l'apôtre, c'est pas la poudre aux yeux, c'est la poudre du cœur, ou la poudre au cœur, comme vous voudrez. C'est-à-dire, eh bien, tout ce qui est ce trésor qu'il évoque, la parure cachée du cœur. Et je crois qu'elle est à découvrir dans le mariage parce que c'est cette découverte mutuelle qu'on fait au cours des années qui est, selon, je crois, la parole de Dieu. Et puis la bonté, verset 5 du chapitre 3, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham. Elle appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues des descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, on voit que Pierre prend des exemples dans le passé. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Je termine par les marques de la maturité masculine. Éphésiens 5, là aussi je vais aller vite parce que c'est des textes qui sont bien connus. Éphésiens 5, Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Donc vous avez on a un commandement, les maris, c'est que notre vraie masculinité, maturité masculine, se trouve dans le fait d'aimer l'épouse comme Christ a aimé l'assemblée, c'est-à-dire un amour inconditionnel et constructif. Il nous est dit ensuite que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, donc une expression qui est très forte. Je passe au verset 28, aimer comme soi-même. De même, les maris donc doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Je viens d'en dire un mot. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Là aussi, on a un commandement, parce que le mot doivent est un mot très fort qu'on retrouve très rarement dans le Nouveau Testament. Un commandement, donc, quand je crois qu'il porte sur le corps, c'est intéressant. Quand on est malade, on cherche à soulager les parties malades du corps, à prendre soin d'elles. On ne va pas les traiter avec négligence. Et je ne veux pas dire que là, l'épouse est malade, mais c'est une comparaison qui permet de montrer le soin qu'on doit s'attacher à porter à son épouse. Et puis, il y a une image. c'est l'image de Christ et de l'assemblée. Il n'est jamais demandé à l'homme d'être un leader. On ne voit pas ça dans la parole. Il lui est seulement demandé d'aimer. Je termine en disant qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, je crois, dans nos couples, c'est non seulement d'essayer de réaliser ça, mais c'est la pureté, qui est une des priorités essentielles, parce que je crois que c'est un des plus grands dangers de notre civilisation, où tout aujourd'hui est permis. Et c'est peut-être un des défis qui nous est lancé aujourd'hui. Je crois que les hommes et les femmes qui assument leur identité, avec quelques exemples que nous venons de voir dans la parole, sont ceux qui sont consacrés au Seigneur, et c'est ce qu'il attend de nous.